6.
L'homme qui a tué les filles Howard a utilisé une fourgonnette, dit Yunel. Et une fois son crime commis, il l'a abandonné dans un endroit fréquenté. L'homme qui a tué Frank Peterson en a fait autant avec la camionnette qui lui a servi à kidnapper le garçon. Il a même attiré l'attention en la laissant derrière le Shorty's Pub et en s'adressant à deux futurs témoins, comme l'a fait Holmes avec la serveuse et la cuisinière du Waffle House. Les policiers de l'Ohio ont découvert de nombreuses empreintes à bord de la fourgonnette, celle du meurtrier et de ses victimes, je l'ai dit. De notre côté, nous en avons découvert énormément à l'intérieur de la camionnette. Mais parmi celles-ci figurait au moins une série d'empreintes non identifiées, jusqu'à aujourd'hui.
Ralph se pencha en avant, tout ouïe.
Laissez-moi vous montrer quelque chose.
Yunel manipula son ordinateur. Deux empreintes apparurent sur l'écran.
Ce sont celles du jeune garçon qui a volé la camionnette dans le nord de l'État de New York. La première a été prélevée sur la camionnette, l'autre lors de son arrestation à El Paso. Maintenant, regardez bien.
Il fit une nouvelle manipulation et les deux empreintes se superposèrent à la perfection.
Voilà pour Merlin Cassidy. Passons à Frank Peterson. Voici une empreinte prélevée par le légiste et une autre provenant de la camionnette.
Là encore, la superposition des deux fit apparaître une correspondance parfaite.
Au tour de Maitland maintenant. Une première empreinte prélevée dans la camionnette, parmi beaucoup d'autres, pourrais-je ajouter. Et une seconde datant de son arrestation par la police de Flint City.
Il les rapprocha l'une de l'autre, et là aussi, elles se superposèrent parfaitement. Marcy ne put retenir un soupir.
« Bien, » reprit Yunel. « Maintenant, accrochez-vous. À gauche, une empreinte non identifiée provenant de la camionnette. À droite, une empreinte de Heath Holmes, relevée après son arrestation à Montgomery County, dans l'Ohio. »
Il les fait glisser l'une sur l'autre. Cette fois-ci, la similitude n'était pas parfaite, mais restait saisissante. Toutefois, Holly estimait qu'un jury s'en serait contenté. C'était son cas.
Vous remarquerez quelques légères différences, dit Yunel. Dû au fait que l'empreinte de Holmes est un peu dégradée, peut-être à cause du passage du temps. Mais il y a suffisamment de points de ressemblance pour me satisfaire. Aucun doute, Heath Holmes est monté dans cette camionnette à un moment ou un autre. C'est une nouvelle information.
Le silence se fit dans la salle. Yunel projeta deux autres empreintes. Celle de gauche était bien nette. Holly remarqua qu'il l'avait déjà vue. Ralph également.
C'est l'empreinte de Terry, dit-il, provenant de la camionnette.
Exact. Celle de droite a été relevée sur la boucle de la ceinture trouvée dans la grange.
Les volutes étaient identiques, mais curieusement effacées par endroits. Lorsque Yunel les superposa, l'empreinte de gauche vint combler les vides de l'empreinte trouvée sur la ceinture.
« Nul doute qu'il s'agit bien de même, »
déclara le lieutenant.
« L'une et l'autre appartiennent à Terry Maitland. Toutefois, celle de la ceinture semble provenir d'un doigt beaucoup plus vieux. »«
Comment est-ce possible ?» demanda Johnny.
« Ça ne l'est pas, justement, » dit Samuels. « J'ai vu les empreintes de Maitland sur sa fiche d'arrestation, relevées plusieurs jours après qu'il avait touché cette ceinture. » Elles étaient parfaitement nettes. Chaque crête, chaque volute était intacte.
Nous avons également relevé une empreinte non identifiée sur cette boucle de ceinture, ajouta Yunel. La voici.
Celle-ci, aucun jury ne l'accepterait. Les volutes apparaissaient à peine. L'ensemble ressemblait plutôt à une tache. Yunel reprit.
Impossible de l'affirmer avec certitude, compte tenu de la mauvaise qualité de l'empreinte. « Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de celle de M. Maitland, et il ne peut absolument pas s'agir de celle de Holmes, mort depuis longtemps quand cette ceinture est apparue pour la première fois sur les images de vidéosurveillance de la gare. Et pourtant, Heath Holmes est bien monté à bord de cette camionnette qui a servi à enlever le jeune Peterson. Je suis incapable d'expliquer quand, comment ou pourquoi, mais je n'exagère pas en disant que je donnerais $1,000 pour savoir qui a laissé cette empreinte floue sur la ceinture, et au moins 500 de plus, pour savoir pourquoi l'empreinte de Maitland paraît si vieille.
Il déconnecta son ordinateur et s'assit.
« Eh bien, il y a de nombreuses pièces sur la table, »
commenta Howie.
« Mais on ne peut pas dire qu'elles forment un tableau d'ensemble. Quelqu'un en a d'autres ?»
Ralph se tourna vers sa femme. « Dis-leur, » l'encouragea-t-il. « Dis-leur qui tu as vu chez nous dans ton rêve. »
« Ce n'était pas un rêve. Les rêves s'estompent, pas la réalité. »
Timidement, tout d'abord, puis avec de plus en plus de ferveur, Janet raconta comment elle avait vu de la lumière en bas et découvert l'homme assis à l'entrée du salon, sur une des chaises provenant de la cuisine. Elle conclut par la mise en garde qu'il lui avait adressée.
« Vous devez lui dire d'arrêter !»«
Je me suis évanouie, pour la première fois de ma vie. »
« Elle s'est réveillée dans notre lit, » précisa Ralph. Aucun signe d'effraction. L'alarme était enclenchée.
« Un rêve !»
déclara Samuels, catégorique. Janet secoua la tête, assez violemment pour faire voltiger ses cheveux.
« Non, il était là !»«
En tout cas, il s'est passé quelque chose, » concéda Ralph. « J'en suis sûr. L'homme au visage brûlé avait des tatouages sur les doigts. »
« L'homme qui n'apparaît pas sur les images ?» dit Howie.
« Je sais que ça peut sembler fou, mais il y a dans cette affaire une autre personne aux doigts tatoués. Et ça m'est revenu. J'ai demandé à Yunel de m'envoyer une photo, et Gianni l'a identifiée. L'homme qu'elle a vu dans son rêve ou dans notre maison est Claude Bolton, le videur du Gentleman Please, celui qui s'est blessé en serrant la main de Maitland. Tout comme Terry s'était raflé la main, en percutant l'aide-soignant, ajouta Marcy. Et cet aide-soignant, c'était Heath Holmes, n'est-ce pas?
Forcément,
répondit Holly d'un air presque absent. Elle contemplait un des tableaux au mur.
Qui d'autre?
Alec Pellé intervint.
L'un de vous s'est-il intéressé aux faits et gestes de Bolton?
Moi, dit Ralph. Actuellement, il se trouve dans une petite ville du Texas nommée Marysville, à 600 kilomètres d'ici. À moins qu'il possède un jet privé caché quelque part, il était là-bas au moment où Gianni l'a vu chez nous.
« Sauf si sa mère ment elle aussi, »
fit remarquer Samuels.
« Et comme nous l'avons souligné précédemment, les mères ont souvent tendance à mentir quand on soupçonne leur fils. »
Gianni a eu le même raisonnement, mais cela semble peu probable dans ce cas précis. Le policier qui s'est rendu sur place, sous un prétexte, affirme que la mère et le fils semblaient l'un et l'autre détendus et ouverts, aucun signe de culpabilité. Samuels croisa les bras.
« Je ne suis pas convaincu. »«
Merci, » dit Howard.
« À votre tour, je crois, d'ajouter une pièce au puzzle. »«
Je n'y tiens pas. Laissons faire l'inspecteur. Il a interrogé Grace. »
Howie lui prit la main.
« Faites-le pour Terry. »
Marcy soupira.
« Bon, très bien. Grace a vu un homme, elle aussi, à deux reprises. La seconde fois dans notre maison. J'ai cru qu'elle faisait des cauchemars car elle était bouleversée par la mort de son père, comme le serait n'importe quel enfant. »
Elle s'interrompit et se mordilla la lèvre inférieure.
« S'il vous plaît, Madame Maitland, » dit Holly, « c'est très important. »
« En effet, » confirma Ralph.
J'étais certaine qu'il s'agissait d'un cauchemar. Absolument certaine. A-t-elle décrit cet homme ?
Demanda Janet.
Plus ou moins. La première fois, c'était il y a une semaine environ. Grace et Sarah dormaient dans la chambre de Sarah. Et Grace affirme qu'elle a vu un homme flotter derrière la fenêtre. Il avait un visage en pâte à modeler et des pailles à la place des yeux. N'importe qui croirait un cauchemar, non ?
Personne ne répondit.
La deuxième fois, c'était dimanche. Grace a fait une sieste, et quand elle s'est réveillée, elle a vu l'homme assis sur son lit. Il avait les yeux de son père désormais. Mais il continuait à lui faire peur. Il avait des tatouages sur les bras et sur les mains.
Ralph intervint. Grace m'a raconté que son visage en pâte à modeler avait disparu. Il avait des petits cheveux noirs dressés sur la tête et une barbichette autour de la bouche.
« En boucle !»
précisa Janet. On aurait dit qu'elle allait vomir.
« C'était bien le même homme. La première fois peut-être qu'elle arrivait, mais la seconde, c'était Bolton, sans aucun doute.
Marcy plaqua ses paumes sur ses tempes, comme en proie à la migraine.
Je comprends qu'on puisse le penser, mais c'était forcément un rêve. Grace a raconté que la chemise de l'homme changeait de couleur pendant qu'il lui parlait. C'est le genre de choses qui arrivent seulement en rêve.
Inspecteur Anderson, voulez-vous raconter la suite ?
Vous vous débrouillez très bien.
Marcy se frotta les yeux et poursuivit.
Grace dit qu'il s'est moqué d'elle. Il l'a traitée de bébé. Et quand elle s'est mise à pleurer, il a dit qu'il était content qu'elle soit triste. Puis il l'a chargée de transmettre un message à l'inspecteur Anderson. Où il arrêtait, où il arriverait quelque chose de grave.
D'après Grace, ajouta Ralph, la première fois que l'homme est apparu, il semblait ne pas être fini. La seconde fois, elle a décrit un homme qui ressemblait à Claude Bolton, assurément. Mais il est au Texas. Tirez-en les conclusions que vous voulez.
Si Bolton est là-bas, il ne pouvait pas être ici,
déclara Samuels, excédé.
Cela me semble évident. Ça semblait évident avec Terry Maitland aussi,
fit remarquer Howie.
Et on vient de voir qu'il en va de même avec Is Holmes.
Il reporta son attention sur Holly.
Nous n'avons pas Miss Marple parmi nous, mais nous avons Mademoiselle Gibney. Pouvez-vous assembler toutes ces pièces pour nous éclairer ?
Holly semblait ne pas l'entendre. Elle continuait à examiner un tableau au mur.
Des pailles à la place des yeux, dit-elle.
Oui, bien sûr, des pailles.
Sa voix mourut.
Mademoiselle Gibney,
dit l'avocat.
Avez-vous quelque chose pour nous ou pas ?
Holly revint de l'endroit où elle était partie.
Oui, je peux vous expliquer ce qui se passe. Je vous demande juste d'être ouvert. Ce sera plus rapide, je pense, si je vous montre un extrait du film que j'ai apporté. Je l'ai là, dans mon sac, en DVD.
Après avoir récité une brève prière muette pour avoir suffisamment de force et pour entrer en communication avec Bill Hodges, quand ils exprimeraient leur incrédulité et, peut-être, leur indignation, elle se leva et posa son ordinateur en bout de table, à la place de celui de Yunel. Puis elle sortit son lecteur de DVD externe et le connecta. 7. Jack Hoskins avait envisagé de demander un arrêt maladie pour son coup de soleil, en soulignant qu'il y avait eu plusieurs cas de cancer de la peau dans sa famille, avant de décider que c'était une mauvaise idée. Très mauvaise même. Le chef Geller lui ordonnerait de sortir de son bureau, et si la nouvelle se répandait, Rodney Geller était plutôt du genre bavard, il deviendrait la risée de toute la police. En outre, dans le cas peu probable où le chef accepterait sa demande, il exigerait que Jack se rende chez le médecin, et il ne se sentait pas prêt à y aller. Mais on l'avait obligé à écourter ses foutues vacances de 3 jours, et cela lui paraissait injuste, étant donné qu'elles étaient prévues depuis le mois de mai. Voilà pourquoi il s'estimait autorisé à transformer ses 3 jours en vacances à domicile, comme aurait dit Ralph Anderson, et il passa le mercredi après-midi à faire la tournée des bars. Au 3e arrêt, il avait presque réussi à oublier l'effrayant épisode de Canning Township, et au 4e, il avait cessé de s'inquiéter de ce coup de soleil, d'autant plus étrange qu'il semblait l'avoir attrapé de nuit. Pour son 5e arrêt, il choisit le Shorties. Là, il demanda à la barmaid, une très jolie femme dont le nom lui échappait maintenant, même s'il se souvenait très bien de ses longues jambes moulées dans son wrangler, d'examiner sa nuque et de lui dire ce qu'elle voyait. Elle s'exécuta.
« Un coup de soleil ?»
dit-elle.
« Juste un coup de soleil, hein ?»« Oui, c'est juste un coup de soleil. »
Puis après une pause,
« Mais un méchant, il y a même des cloques. Vous devriez mettre de l'aloe vera,
oui, je sais. »
Après 5 vodka toniques, ou peut-être 6, Jack rentra chez lui en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse, assis bien droit au volant. Il ne faudrait pas qu'il se fasse arrêter. Le taux d'alcool autorisé dans cet état était de 0,8 g. Il atteignit la vieille hacienda à peu près au moment où Holly Gibney commençait son exposé au cabinet de Howard Gold. Il se mit en caleçon et, après avoir verrouillé toutes les portes, il se rendit dans la salle de bain pour vider sa vessie, qui en avait bien besoin. Cela étant fait, Il utilisa de nouveau le miroir à main pour examiner sa nuque. Le coup de soleil devait commencer à s'atténuer normalement, et peut-être même à peler. Mais non, la brûlure avait noirci. De profondes crevasses striaient sa peau. Des filets de pus nacrés s'en écoulaient. Il gémit, ferma les yeux, les rouvrit et poussa un soupir de soulagement. Ouf! Pas de peau noircie, pas de crevasses, pas de pus. En revanche, sa nuque était écarlate. Et oui, il y avait des cloques. Au toucher, c'était moins douloureux que précédemment, mais rien d'étonnant à cela. Il avait ingurgité une bonne dose d'anesthésie en russe.
« Faut que j'arrête de picoler autant, »
pensa-t-il.
« Quand on voit des trucs qui n'existent pas, c'est un signal clair. On pourrait même parler d'un avertissement. »
N'ayant pas de baume à l'aloe vera, il badigeonna le coup de soleil de gel à l'arnica. Ça piquait, mais la douleur disparut très vite. Du moins, elle se transforma en un battement sourd. C'était bon signe, non? Il étala une serviette sur son oreiller pour ne pas le tacher, s'allongea et éteignit la lumière. Dans le noir, cependant, il avait l'impression de ressentir davantage la douleur. Et c'était trop facile d'imaginer une présence dans la chambre. Cette créature qui avait surgi derrière lui là-bas, dans la grange abandonnée.
Non, la seule chose qu'il y avait là-bas, c'était mon imagination. Tout comme j'ai imaginé ma peau noircie, les crevasses, le pus.
Ce raisonnement était vrai. Mais il est vrai également qu'il se sentit mieux après avoir allumé sa lampe de chevet. Une bonne nuit de sommeil arrangerait tout. Telle fut sa dernière pensée.